Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si votre enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes. Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient une plus petite quantité d'ARN messager, car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace que chez les adultes.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca/vaccinjeunes. Un message du gouvernement du Québec.
Peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Que se la dio San José antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiene del romero. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
Bienvenidos a CKUT 90.3 FM.
Bonjour tout le monde, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90.3 FM. C'était une magnifique pièce de notre chanteuse chérie, Feu Lassa de Sella.
Exactement, et bienvenue Nelson.
Bonjour Marc-André, ça va bien?
Ça va bien toi?
Qui est-elle? On entendait une petite voix en arrière. En arrière-plan, pendant la chanson, c'était étrange, non?
C'est le nickname AIM, qui était présente. C'est comme du karaoké à l'envers. C'est en accompagnant la chanteuse, on fait les backing vocals.
Parce qu'effectivement, les karaokés sont ouverts depuis quelques temps.
Oui, effectivement.
Donc, on peut en faire.
Oui, on même peut postuler en direct. On est très proche. Les Spitfires sont là.
On peut postillonner, tu vois.
Postillonner,
oui,
exactement.
On peut se cracher dans la face.
Exactement.
Puis, c'est plaisant. On aime ça, chanter par-dessus la musique comme ça.
Exactement. J'espère que La Llorona, c'est l'album sur lequel Lassa chante. Et la chanson était Los Peces, si je ne me trompe pas. Oui, les poissons. Hein? C'est bien ça.
Oui, exactement.
Et ça, c'est. J'avais aussi un point que je voulais faire, vu qu'une jeune latino-québéco-montréalaise, c'est dans la culture latine, cette chanson-là, c'est comme une comptine.
OK.
Fait qu'il y a beaucoup d'enfants au Mexique ou ailleurs qui la savaient.
OK.
Et là, cette chanson-là se retrouve dans une télésérie qui est un spin-off des Sons of Anarchy. Pas les SOB, mais les SOA, Sons of Anarchy.
Ouais.
C'est des bikers. Et là, ils ont fait un spin-off qui s'appelle Mayans MC. C'est des motocyclistes, des bikers mexicains aux États-Unis et à la frontière. Mayan MC, MC Power Motorcycle Club et Los Asesinos de Dios.
Oh, pas là, des gentils monsieur, ça.
Des
hein,
gentils monsieur, et exactement. La série est vraiment excellente et dans un des épisodes de la deuxième saison que je viens de terminer, il y a deux chansons de notre regretté Lassa qui sont dedans, dont celle-là.
Oh,
dont
wow!
Dont celle-là, oui. Fait que j'étais vraiment agréablement surpris, mais qu'il y en ait deux en plus.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Fait que si vous aimez la culture cholo, les choppers, les bikers, les tattoos, la culture latino-américaine, américaine aussi, gringo d'un côté,
ouais.
Je vous conseille cette série-là qui est vraiment bonne, qui s'étire un peu moins que les Sons of Anarchy vers la fin. C'est ça, je le raconterai pas plus que ça, c'était juste une petite parenthèse
Donc
sur ça.
Donc ça s'appelle The Mayans.
MC.
MC, et ça joue à la télévision, ça?
Ça
ou
joue,
oui,
c'est sur... moi, j'ai une cassette dans les mains. C'est sur FX, la boîte de production, c'est FX.
La chaîne FX, OK.
C'est la chaîne FX.
Sinon, tu l'as en VHS dans les
bains. VHS, non, en bêta.
En bêta. Encore mieux.
En Laserdisc, t'en rappelles-tu, il y avait des Laserdisc?
Ouais, des gros CD, là.
Non, des gros vinyles en or pour écouter des films.
Oh non, moi j'ai pas connu ça.
Ouais, non. Ouais. Non, un de nos profs de cinéma nous avait montré ça, fait que c'était des vinyles en or, mais c'était des films qui étaient enregistrés dessus.
Et pas là, je t'ai dit, toi. Fallait-tu changer le côté du vinyle à la moitié du film?
Oui, il y avait la fée clochette, mais non, je pense pas, je m'en rappelle pas. Là,
on ça. Tourne à la page.
On tourne la page, ding dong. En passant, on parle de Lassa, qui est une américaine, mexicaine, qui a vécu à Montréal.
Ouais.
Et il y a eu un hommage en 2020, parce qu'elle est disparue, et c'est une muraliste montréalaise qui s'appelle Annie Hamel, que je salue. C'était sa fête dernièrement. Bonne fête, Annie, si tu écoutes. Et la murale est située au 4535 l'avenue Henri-Julien à Montréal. Fait que si vous passez, c'est une murale sur un mur de briques, et elle a gardé un peu l'effet brique. Tu sais, elle n'est pas remplie au complet. Et c'est Lassa qui est en train de chanter. Fait qu'elle a un micro comme on a en ce moment, et il y a un colibri. Le colibri qui représente le voyagement entre ces trois endroits-là, l'Amérique,
migrateur.
Le Mexique, le migrateur.
Fait que, intéressant.
Fait que,
sur la rue Henri-Julien, sur le plateau Mont-Royal.
C'est
le
plateau.
C'est quoi l'adresse encore? 45?
C'est le 4535 avenue Henri-Julien.
Ouais. Moi, je dis que c'est, ouais, effectivement, entre Mont-Royal et Laurier.
Hey, toi, tu connais ça. Montréal. Montréal. Hey, il y a deux autres albums de Lassa. Il y a The Living Road, que toi, tu connais un peu plus. Moi, celui que je connaissais un peu plus, c'est La Llorona, la pleureuse,
ouais.
Qui est plus ancrée dans le traditionnel. Oui,
ouais.
C'est son premier. Je crois que le deuxième, c'est The Living Road.
Oui, qu'il y a plus de chansons en anglais.
Oui, exactement. Enfin, moi, j'ai un petit peu moins embarqué. Moi, j'aime ça quand c'est full Spanish. Et le dernier qui est intitulé tout simplement Lassa.
Oui.
Lassa, qui est, je crois, son dernier. Ils ont peut-être fait des compilations ou d'autres choses, mais c'est une artiste montréalaise.
Effectivement. Grande chanteuse qu'on a eu la chance d'avoir ici, dans notre belle ville chérie. Est-ce qu'on a une thématique aujourd'hui pour l'émission, Marc-André? Moi, je suis zéro préparé, mais toi, tu as plein de notes.
Je vais t'annoncer ça. Ça okay. a été fait
Je découvre ça au fur et à mesure.
Exactement. Ben là, il y a eu le Salon du livre. Ben, en gros, on va parler de livres, comme d'habitude, de bande dessinée, de musique. Si on a le temps, un vinyle, mais je ne croirais pas, c'est une émission très chargée. Un film, un documentaire, de la musique et une prestation de AIM en direct à la fin.
C'est qui ça? De qui on parle exactement?
Je ne sais pas, d'une jeune artiste de la relève.
Une jeune artiste de la relève qui est en studio avec nous en ce moment?
Eh oui, on salue.
On salue.
Qui est caché dans un coin.
Salut, AIM.
Hey, ouais, il y a le Salon du livre. Il y a beaucoup de parutions qui sont sorties. Je vais faire un tour vite pour vous donner des idées. Et là, je vais avoir une couple de petits commentaires.
Mais par contre, le Salon du livre, il est peut-être déjà fini.
Les livres sont sortis et vous pouvez les acheter pour des futurs Noël. Cadeaux. Noël ou d'autres, mais là, on veut pas faire la promotion de la fête capitaliste. Astérix et le Griffon, fait qu'un nouveau Astérix qui est sorti. Et là, un livre bizarre, ça s'appelle Born in the USA. Ça fait penser à qui? Born in the USA.
C'est Bruce Springsteen?
Oui, exactement, avec Barack Obama.
Mais c'est pas un livre de Bruce Springsteen, là.
Non, c'est un livre des deux. Je sais pas de quoi qui se passe.
Ah, c'est avec Bruce. Donc, c'est un livre de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, merci.
Les Springs, ça va.
Blablabla. Et Barack Obama.
Exactement. J'en dis pas plus, je l'ai pas lu, mais je sais que ça a sorti, puis moi, je sais que ça va sûrement être un best-seller. Un Michael Conley, une traduction, pour ceux qui aiment les romans policiers, L'innocence et la loi. Mm-hmm. Moi, j'adore Michael Conley. J'essaie de les lire en ordre. Il y en a peut-être une quinzaine de traduits. Peut-être que je me trompe. Moi, je suis rendu à moitié. Mais je peux pas les lire back-to-back parce que c'est un petit peu redondant. Là. Tu sais, des enquêtes. À un moment donné, il faut en sortir.
Une recette un peu qui revient.
Et là, un autre artiste qui nous avait quitté et qui a deux murales de lui à Montréal. Il y a une bande dessinée de Leonard Cohen qui s'appelle « Sur un fil » d'un dessinateur québécois, un BDiste, Philippe Girard. Je ne l'ai pas lu, c'est déjà dans ma liste de souhaits. Et toi, je te ferai un cadeau de Noël, Nelson.
Oui, s'il te plaît.
Oui, ça serait un certain cinéaste québécois disparu. Non, je parle juste de personnes disparues.
Oui.
Ça s'appelle Album Falardeau.
Ah! Ben, ça doit être sur Philippe Falardeau.
Ben!
Il n'est pas encore disparu, désolé.
Non.
Non, c'est pas lui, c'est une blague. Donc, Pierre Falardeau.
Exactement. Tu m'as bien eu. C'est « Nous aurons toutes la mort pour dormir ». J'ai de la misère à le dire. Et c'est écrit par un certain Jules Falardeau et Manon Leclerc.
Ah, donc Jules Falardeau qui est son fils.
Exactement, qui est cinéaste aussi.
Qui est également un réalisateur.
Exact.
Et l'autre personne, je ne connais pas.
Moi non plus. Et là, on a aussi des humoristes qui se lancent en littérature. Et il y a Mathieu Cyr.
Oui.
Qui a écrit un livre qui s'appelle « Jamais trop tard ».
C'est un livre de croissance personnelle.
Motivation, croissance personnelle.
Oui, oui, oui.
Ouais, exactement. Je sais pas si ça va être rigolo. Il y a Guy Nantel qui a écrit le livre « Offensant ».
Ah, un livre pour offenser?
Pour offenser. Fait qu'on ne lira pas, on veut pas avoir de plainte à la station de radio. Et là, vu que les humoristes se lancent là-dedans, si tu es ami avec l'humoriste Mathieu Pepper, qui est très rigolo, qu'on aime bien, je pense qu'il vient de Saint-Eustache, il parle tout le temps de Saint-Eustache.
Ben non, c'est pas mon ami.
Non, OK. Mais si ça serait ton ami, je saurais ça serait quoi son cadeau. Ça serait Will. Will Smith et Mark Manson. C'est un livre sur des pensées de Will Smith.
Okay.
Et c'est le mentor de Mathieu Pepper.
Ah oui?
Oui, oui, oui. Il dit ça dans un des podcasts. Puis moi, je trouvais ça bien comique. Là. Il était comme stické vraiment. Il était, je pense qu'il fait une fixation sur Will Smith.
Okay.
Je pense qu'il en rêve même. Donc, il prie Will Smith à place de prier Dieu. Il prie le grand Will Smith.
Le grand Will Smith.
Oui.
Donc, il y a un certain following Will Smith.
Oui, exactement. Et là, Paul Tex Lecor, ça te dit-tu quelque chose?
Ben oui, le grand animateur de radio.
Oui, excellence d'un téléphone.
Donc, qui, à l'époque, si je ne me trompe pas, c'est sur la radio AM,
oui.
Il y a très longtemps, à Montréal, c'était la
630.
Ça se peut-tu?
Ça se peut.
Moi, je me souviens de CKAC 730, des mes plus lointains souvenirs. J'écoutais le baseball des expos. C'est cassé 730.
J'avais oublié.
Puis bonsoir les sportifs avec Ron Fournier. Yeah.
Ah, ben oui.
Jadis Naguère.
Puis Roger Brulotte, lui.
Et Roger et Pierre Doucet, Paul Doucet, Pierre Doucet, qui animait le baseball, les matchs de baseball des Expos.
Là, on va perdre. Mais on n'a pas beaucoup d'auditeurs, là. On va en perdre beaucoup sans parler de sport.
Mais Tex Lecor, on revient au Salon du Livre. Donc, Tex Lecor, il y a un livre sur lui?
Oui, lui aussi, il est disparu, mais il faisait de la peinture.
Oui,
c'est vrai. Et le titre du livre s'appelle Clair Obscur. Il est écrit par Robert Bernier. Moi, ça m'intéresse parce que, honnêtement, la peinture de Tex Lecor me fait pas rire. Je pense que ça me fait plus rire que son humour. Mais elle m'intéresse plus que son humour de.
C'est-tu lui qui faisait des clowns?
Peut-être, mais il faisait beaucoup de paysages. Tu sais, des scènes de taverne, de bonhomme, de gars qui allaient bûcher du bois. Tu sais, un petit peu le du cancan, là, du québécois contenu.
OK.
C'est ça, les raquettes, la chemise carottée, un petit peu la chasse-galerie. Beaucoup de paysages. Et il y avait vraiment son style. Il y avait vraiment une signature. Là. On fera pas un Bob Ross de lui, mais c'était vraiment intéressant. Fait qu'il y a un livre de lui, j'ai hâte quand même de le feuilleter. Et là, je finis par notre obsession des drummers avec The Storyteller, Tales of Life and Music d'un certain Dave Grohl.
Dave Grohl, OK.
OK, personne n'a eu de point
Dave
pour cette
réponse. Ouais, OK, l'ex-batteur de Nirvana et actuel chanteur des Foo Fighters.
Exactement. Et là, dans un article paru dans un journal anglophone de Montréal, il dit, après le suicide de Kurt Cobain, on est vraiment, ce matin, on est vraiment dans une thématique joyeuse. Je viens de réaliser ça à l'instant. Il dit, tu sais, t'as formé les Foo Fighters après, puis on dirait que t'avais beaucoup d'ambition par nature. Puis lui, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, en fondant les Foo Fighters, ça a été comme une espèce de reprendre ses émotions, de, tu sais, la musique, c'est toute sa vie, quand même, Dave Grohl, puis tout ça, il connaît juste ça, fait qu'il a dit, qu'est-ce que je sais mieux le faire, c'est la musique, fait qu'il a décidé de former les Foo Fighters. Et là, je vais lire le petit extrait en anglais. Il avait mis son instrument, I put my instrument away, I couldn't imagine joining another band, but music had been my best friend my entire life. Eventually, I had this revelation that music would heal me again and that maybe Foo Fighter was going to get me through this.
OK.
Fait que ça a l'air super intéressant. Moi, Dave Grohl, là, tous les projets, on va dire side project qu'il fait, il a drummé pour Queen of the Stone Ages sur un album. Il a fait l'album Phobos qui a invité tous les chanteurs de son enfance qui trippaient. C'est quand même un grand monsieur très intéressant. Fait que ça va être allé. Je pense que ça va. Pour les amateurs de musique, je pense que c'est comme le cadeau à mettre dans le bon Noël.
Oui, effectivement.
Des grungers ou de cette génération-là.
Oui, ça a l'air intéressant. Surtout qu'il a été dans un des groupes les plus influents des années 90.
Oui.
Donc, c'est quand même pas n'importe qui, même si c'était peut-être pas lui nécessairement qui composait toute la musique de Nirvana. Mais reste qu'il était quand même une des seules trois personnes sur Terre qui peut dire qu'il était dans Nirvana.
Exactement. Puis, en tout cas, on le voit un peu moins, là, mais Dave Grohl, il est très présent partout. Même, il compétitionne avec des jeunes drummers qui se lancent des défis.
Sur Internet, il a été assez. Durant la pandémie, là.
Ouais.
Effectivement, j'ai vu ça aussi sur YouTube, les vidéos enregistrées, style confinement, là.
Exactement. Ouais. C'est très rigolo.
Ouais.
Hey, je fais un message, ça me fait penser à la musique, ça sauve des vies, puis tout ça. Tu sais, il y a un message aux employeurs ou, tu sais, à des gens, là, je parle en général, je veux pas parler de mon emploi, mais j'ai remarqué ça que au travail, quand c'est possible, tu sais, de laisser écouter les gens de la musique, s'ils font un travail manuel ou autre, et des podcasts, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que ça augmente le bonheur de l'employé.
Ouais.
Et sa productivité est ainsi augmentée et tout le monde est heureux. Puis moi, des fois, quand je travaille, que ce soit chez nous ou ailleurs, écouter de la musique, écouter un podcast, ça me ground.
Ouais.
Ça me met sur le piton. Comme toi, je sais que tu cours. Écoutes-tu de la musique quand tu cours?
Jamais. Non?
OK.
Je viens juste
mon
de contredire.
Point, mon point vient d'être descendu.
Mais courir, c'est sûr que pour les gens qui courent, qui font du jogging, avec de la musique, c'est certain que ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se passer de la musique pour faire du jogging parce que le jogging te donne un rythme. Donc, pardon, la musique te donne un rythme pendant que tu cours. Donc, c'est sûr que c'est vraiment aidant. Moi, personnellement, je suis de l'école de... Ben, je cours sans aide. Mais ça, c'est un choix personnel. Je ne vais pas juger ceux qui choisissent de courir avec la musique. Mais, par contre, pour le travail, effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, personnellement, je travaille dans un travail de bureau. Donc, je suis assis devant un écran d'ordinateur et, effectivement, j'écoute de la musique. Par contre... Moi, comme je réponds à des messages, j'écris des messages, bon, faut que je réfléchisse, là. Écouter de la musique avec des paroles, ça me distrait. Puis écouter des podcasts, je suis incapable.
Okay.
Donc, j'écoute la musique instrumentale beaucoup pendant que je travaille. Puis effectivement, ça m'aide à me concentrer, surtout s'il y a du bruit autour de moi. Si j'ai des collègues autour de moi qui parlent fort, ben là, j'écoute ma musique, puis... je me mets dans ma bulle. Puis effectivement, ça m'aide beaucoup. Et ça peut me changer l'humeur. Ouais. Quand tu te sens pas bien, puis après ça, tu écoutes la musique plus agressive, ça te défoule, puis tu passes à autre chose.
Music is my only friend. La musique, c'est notre seul ami.
Absolument.
On adore ça. Hey, on a-tu le temps? On s'en va-tu justement dans les livres ou on enchaîne avec une chanson?
Comme tu veux, il reste 10 minutes avant la pause.
10 minutes avant la pause. Une petite chanson. On va y aller avec une petite chanson.
Une petite toune. Ben oui, donc. Yes.
So wrong, I don't know what's wrong with it. treat me like shit.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'était une pièce de General Rudy.
Evil Woman.
La chanson Evil Woman.
Et ça finit par un gros mot. J'espère qu'il va être censuré ou que vous ne l'avez pas entendu.
Personne n'a entendu. Je pense qu'on est tous capables de vivre avec ça.
Excellent. C'est apparu sur une compilation. Le temps file. Fait que moi, je veux, avant la pause, de parler de combien de temps j'ai?
Un gros 4 minutes 30.
Hey my God, un marathon, je vais faire un sprint.
Juste assez.
OK, vite, vite, un livre de dessin de Mr. Robert Crumb. Robert Crumb.
Quand tu dis un livre de dessin, c'est comme un livre à colorier, c'est ça?
Non, c'est en noir et blanc. C'est pas colorié, c'est juste des dessins. Là, fais-moi pas perdre mon
OK,
film, mon
excusez, film. Je me tais.
OK, on coupe ça. Non, c'est pas
procéder.
Vrai. Hey, gars, ça s'appelle Waiting for Food Number 3.
OK.
Fait que c'est en attente de ses repas. Robert Crumb, il est dans un restaurant. Il y a des napkins. Moi et ma fille, on fait souvent ça quand on était chez Saint-Hubert. Ils nous emmènent des crayons là. Puis on dessine, puis on sait ce que Robert Crumb, un des plus grands BDistes américains underground de tous les temps, fait quand il n'y a rien à faire. Fait qu'il est là, il attend, il sketch du monde où il y a des idées. Fait que c'est le troisième d'une série. Je pense qu'il y en a plusieurs autres. Des fois, il y a un petit chat, un train, mais je pense pas qu'il y avait un train dans le restaurant, un cowboy, des filles qui attendent leur restaurant, tout ça. Fait que c'est ça. C'est paru Drawn and Quarterly, qui est une maison à Montréal d'édition qui doit avoir eu la licence pour le publier. Fait que c'est un petit, un moyen format. Tiens, je te le passe.
Donc, c'est véritablement des dessins qu'il a fait pendant qu'il était en train d'attendre son repas assis à un restaurant.
C'est ce que l'histoire dit.
Ah, c'est intéressant.
Oui.
Mais je feuillette ça, puis je me dis, hey, wow, c'est quand même... C'est super élaboré comme dessin. C'est vraiment très beau. C'est très détaillé.
C'est Robert Crumb.
Le service devait être vraiment mauvais dans ces restaurants-là.
Exactement.
Pour avoir autant de temps pour dessiner aussi détaillé.
Où il mangeait bien du pain puis commandait bien beaucoup d'eau. Et là, le lien avec Evil Woman, parce que j'ai tout le temps un lien, c'est que Robert Crumb a une obsession de la gente féminine et il dessine les femmes, ses modèles, ses modèles fétiches. Il les dessine avec beaucoup de détails et les hommes, il les rend toujours un peu plus laids, vulgaires, tout croche. Et quand lui se dessine lui-même, il est tout le temps un petit peu le complexe du nerd. T'sais, il a des lunettes, il est maigre, il est c'est un long bonhomme tout maigre, tout ça. Fait que c'est ça, beaucoup d'images avec Dieu. Fait que c'est des petites anecdotes. Tu sais, des fois, il rajoute du texte, mais sinon, c'est du dessin d'observation. Et là, je te laisse le feuilleter. Pendant ce temps-là, moi, je vais te parler du digne successeur de Robert Crumb, en deux minutes, Charles Byrne, qui a écrit le plus grand chef-d'œuvre que j'ai lu dans les 10 dernières années et qui lui a pris à peu près ce même nombre de temps à faire au complet. Ça s'appelle Black Hole. On se demande si c'est autobiographique, ça se passe à son adolescence, un mal dans sa peau, les cauchemars, le monde intérieur, l'introspection, le monde réel versus le monde imaginaire. Et petite anecdote, là, j'ai une de ces bandes dessinées qui est pas Black Hole, qui est une série qui a commencé. Ça s'appelle Dédale, c'est traduit en français. Et j'ai le numéro 2 qui est paru sur la collection Solange. Et Charles Byrne, si je te dis Charles Montgomery Burns, à qui penses-tu?
Mr. Burns dans les Simpsons.
Bravo, 10 sur 10 yes. sur ton test ce matin. C'est que Charles Byrne, l'auteur, a étudié avec Mac Groening, qui a créé le créateur des Simpsons.
Sérieux? Wow.
Et son ami, les deux ont étudié en beaux-arts, a inspiré le personnage de Mr. Burns.
Est-ce qu'il ressemble vraiment à Mr. Burns?
Non, il ressemble pas, mais il y a un côté... Moi, je pense que c'est plutôt les traits de personnalité que le physique. Okay. Ouais. Mais c'est vrai que le monsieur, il est maigre, puis ça, puis il est pas si vieux et si laid que ça. Et encore là, dans cette bande... Ça, c'était mon anecdote. Et dans cette bande dessinée-là, encore une fois, l'adolescence, l'Amérique, la banlieue qu'on nomme pas, on sait pas c'est où... Et on suit les péripéties d'un jeune homme qui est très perdu et qui étudie en art, en cinéma. Fait que c'est souvent, on se demande, y a-tu tout imaginé ça ou il raconte, Il raconte sa vie, mais d'une façon un peu décalée ou avec une distorsion sur la réalité. Et encore là, lui aussi, comme Robert Crumb, beaucoup de personnages féminins, des petites histoires d'amour, inassouvies. Là, il trippe sur une fille, mais il est trop gêné pour lui dire. Une mère qui est un peu déprimante et tout ça. Fait que c'est ça qui est ça dans le monde du sport. Dédale de Charles Byrne et Black Hole, son chef-d'œuvre.
Merci beaucoup pour ces suggestions, bande dessinée, Marc-André. On va à la pause et au de retour. Nous sommes là. Ne quittez pas.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Vous les mains.
Vous connaissez la chanson? Célébrez avec vos proches, mais continuez de suivre les mesures sanitaires en vigueur. Lavez-vous les mains régulièrement et maintenez une distance d'un mètre. Un message du gouvernement du Québec.
Oh,
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'était une chanson de...
Tim Armstrong dans... du troisième de l'album, Into Action.
La troisième pièce de l'album...
A Poet's Life.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Aime, de ta performance. Le studio est en feu. La neige est en train de fondre. C'était parfait.
C'est ça. Donc, pour les gens à la maison, il y avait une voix supplémentaire qui a été ajoutée en direct dans nos studios sur la chanson qu'on vient d'écouter. C'était pas une voix qui était dans l'album.
Non, c'est du jamais vu. C'est une première mondiale.
Une nouveauté, c'est la musique en direct, c'est pas compliqué. Ouais. Et donc, la belle voix de Aime sur du Tim Armstrong.
Oui, chanteur charismatique de Operation... Non, guitariste Operation Ivy et chanteur, co-chanteur des Rancid.
Grand groupe punk, ska, rock... Ska-punk.
Ska-punk. Skunk, c'est du skunk. Skunk. Du ska et du punk ensemble, ça fait du skunk. Hey, on a bien des choses à se dire. Je vais te faire...
On n'arrête pas, on continue.
On continue, on lâche pas la patate. À quoi ça te fait penser si je te dis un magasin populaire des années 90...
OK.
...qui a dans son lettrage du jaune et du bleu?
Greenberg. C'est ça?
Greenbird, ça a l'air vert. Non, OK, c'est pas ça.
Du jaune et du quoi, pardon?
Du jaune et du bleu.
Du jaune et bleu, ben Maxi.
Ouais, OK.
Mais... Ikea.
Oh, OK. Hey, wow, je les avais pas vus venir. Je vais donner un autre indice. Tu as déjà travaillé pour leur compétiteur étant un jeune adolescent.
Moi, j'ai travaillé pour un compétiteur. Moi, je veux pas de compétition. Moi, je veux juste travailler dans la vie. Écoute, là, sérieusement, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Attends, moi, j'ai travaillé pour un dépanneur quand j'étais adolescent.
Ouais.
Donc, un compétiteur, j'ai travaillé pour Couche-Tard quand j'étais ado.
Ouais.
Et un compétiteur de Couche-Tard devait être, à l'époque, il devait avoir Provisoire, c'est ça?
Ah, il y avait Bonne-Histoire.
Bonne-Histoire.
Hey, mais là,
Bonne-Choix.
Bonne-Choix. Hey, là, on fait le CV en direct.
De tous les dépanneurs.
On fait le CV en direct de Nelson. On n'a pas besoin de LinkedIn et toutes ces affaires-là. LinkedIn. Non, c'est ça. Je ne veux pas faire ton curriculum vitae en direct.
S'il te plaît.
Si je te donne un autre exemple. Tout à l'heure, tu m'as niaisé. Tu as dit que j'avais des VHS. Qu'est-ce qu'il y avait des VHS?
Qui avait des VHS?
Oui.
Ben, les clubs vidéo.
Ouais, quel club vidéo? Il y a du jaune et du bleu.
Ah, Blockbuster!
Ouais, bravo!
Merci. Ouh, quel détour.
On est en faux, quel détour.
Ben oui, j'ai aussi travaillé dans un club vidéo quand j'étais adolescent, pas dans un dépanneur uniquement.
Eh non.
Qui était à l'époque Vidéotron.
Oui.
Et il y avait des Blockbusters qui avaient fermé avant Vidéotron, si je ne me trompe pas.
Oui.
Quand les vidéos ont fermé.
Et là, le dernier Blockbuster, le dernier des Mohicans.
Oui.
En Oregon, une ville qui s'appelle Bend, comme Bendover, je sais pas, pas de joke, mais en tout cas, où c'est Den, il me semble que c'était Bend. Et il y a 80 000 habitants et le Blockbuster survit.
Encore aujourd'hui?
Encore aujourd'hui. En 2020, il est encore là.
OK, peut-être pas en 2021, même, mais ouais. OK.
Là, genre, juste pour se mettre dans l'historique, en 1985, David Cook a fondé aux États-Unis Blockbuster, un vidéoclub. Et en 2004, à son apogée, il y en avait 9000 au niveau international.
Moi, il y en avait partout dans le monde.
Il y en avait partout dans le monde.
Ouais.
On en avait au Québec.
Ouais.
Et là, à cause des plateformes digitales, du downloading, du streaming, c'est devenu obsolète.
Ouais.
Mais il y en a un dernier qui résiste. Mais là, tu sais, en 2010, là, il avait tout fait faillite pas mal. Tu sais, ça tombait un après l'autre.
Ouais.
Il y a eu une banqueroute, tout ça. Et là, la location, les ventes de films, les jeux vidéo, là, ils liquidaient tout, pas cher. Et c'est ça qui est arrivé.
Ouais.
Mais là, celui-là, il y a un certain blogueur mexicain qui est allé, qui en a entendu parler. Je sais pas si tu connais Luisito.
Non. J'ai un cousin, par contre, qui s'appelle Louis.
Oui, OK. Ben, c'est Luisito, c'est le petit Louis.
Exactement.
C'est peut-être son petit cousin mexicain. Il a les cheveux frisés, il a une moustache. C'est un blogueur sur YouTube. C'est le deuxième au Mexique.
Oh.
Demande-moi pas c'est qui le premier. Mais regarde juste des chiffres à quand même assez impressionnants. Je regarde mes notes. Naturellement, je ne les trouve pas à ce moment-là. Louis Cito a un blog de voyage et il y a 36,7 millions de personnes qui le suivent.
Oh, wow.
C'est un phénomène.
Okay.
Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Je vais revenir à Blockbuster.
Donc, Louis Cito est allé visiter le dernier Blockbuster encore ouvert.
Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait un dernier Blockbuster.
Ah.
Et Louis Cito, en tout cas, on pourra en reparler très longtemps. Là. Il y a une ligne de vêtements. Il y a sa compagnie de téléphone mobile au Mexique. Il y a des restaurants japonais qui lui appartiennent.
OK, une pourquoi chaîne. Pas.
Et il y a sa tequila qui s'appelle Gran Malo.
Okay.
Le grand mal, peut-être.
Bon.
La traduction. Fait que c'est ce dude-là qui a de l'air de rien, qui est suivi par beaucoup de personnes qui parlent espagnol. Tu me déçois d'ailleurs, je pensais que tu le connaissais.
Ouais, ben, je connais mon cousin Louis.
Mais pas Louis Cito.
Mais Louis Cito.
Mais c'est dans la même famille, c'est très
ses parents l'appellent Louis Cito.
Ah, tu vois, je peux pas l'appeler. Ben, c'est peut-être lui, il y a peut-être un sideline, il te l'a pas dit.
Mais considérant qu'il y a des millions de Louis dans le monde.
Exactement. Mais ton cousin doit être riche en crime parce que Louis Cito, ses affaires fonctionnent très bien. C'est incroyable. Fait que là, lui, il était là à ce Blockbuster-là, il n'arrivait pas à le croire, il a fait un topo, il s'est filmé, tu sais, comme un YouTuber, là, auto-filmé. Il rentre dans le vidéo et il voit qu'il y a des gens et il y a des locations qui se font et il y a des nouveautés, là, des choses récentes. C'est pas juste.
Donc là, il y a des nouveautés qui sortent en DVD.
Exactement, ou Blu-ray.
Oui, on s'entend.
Ouais.
Puis, donc là, ça m'étonne parce que moi, j'étais convaincu que les films ne produisaient plus de DVD Blu-ray. Là. Dans ma tête, c'était terminé, cette époque-là.
Ça n'a pas l'air.
Ça a l'air que non.
Pas en 2020, en tout cas. Pas, en 2020, pas quand il est allé.
J'imagine qu'ils en font encore, mais avec beaucoup moins de copies qu'à l'époque, que tu n'avais pas le choix d'écouter un film en vidéo. Mais il devait produire 1 million ou 2 millions de copies. Là. Mais aujourd'hui, il doit en faire beaucoup moins.
Exactement. Mais regarde, il y a encore des chiffres, des choses très intéressantes. À ce Blockbuster-là, première des choses, tu peux avoir une carte d'abonnement.
Ouais.
Même si tu n'habites pas là, ils vont te faire une carte d'abonnement, c'est comme un souvenir. Il y a un poster qui est « The Last Blockbuster on the Planet » avec une arc-en-ciel en haut. Et là, on parle pas du COVID. Eux autres, ils tripaient sur les arc-en-ciel. Fait qu'ils ont fait un poster qui se vend à 20$. Et là, tu as une binne, tu as un chariot, tu as une espèce de petit rack qui a des cassettes, des VHS. Il y a des VHS.
Oui. Okay.
Et là, assis-toi, je sais que tu es debout. Okay. Ceux qui sont à la maison, j'espère que vous êtes en train de déjeuner. Rain Man coûte en VHS, déjà visionné, 50$.
Ben voyons donc. C'est quoi le but? Je comprends pas.
Je sais pas.
50$. Pour une vieille cassette VHS de Rain Man.
Ouais. Je sais pas si c'est rembobiné, sinon ça te coûte 2$.
Ouais, OK.
Fait que c'est vrai, c'était vrai
quoi,
dans le reportage, c'est peut-être stagé, mais je pense pas, non, c'était rigolo. Et là, qu'est-ce qui est incroyable, c'est que des locations et des ventes de films et des jeux vidéo, ça continue à cette vidéo-là. Et en une journée, là, ils ont une moyenne, je sais pas si c'est assez pour les faire vivre, il y a 100 de films qui sortent par jour de location. Okay.
Ouais, je sais pas
c'est quoi la...
Je suis pas sûr que c'est beaucoup, honnêtement, sans... Considérant qu'une location, on va dire que ça te coûte, je sais pas moi, 5$, 8$,
ouais.
Ben, ça y fait 500, 800$ par jour.
Ouais, je sais pas. Mais là, comme c'est rendu une attraction touristique pour les nostalgiques du vidéo.
Ouais, OK.
Fait que là, t'as tous les souvenirs, comme je disais. T'as des mugs de bière, t'as des porte-clés, t'as le T-shirt, t'as tout ça.
Ouais.
Puis ça crée un engouement avec des YouTubers qui se rendent là. Fait que c'est presque une attraction touristique.
Ouais, ouais, ouais.
Et surtout, à l'intérieur, il y a des vestiges originaux de films, comme la cape de Robin Hood, comme d'autres affaires qui, pour moi, n'ont aucune valeur, mais qui sont comme un petit musée à l'intérieur.
Mais c'est un peu comme ce qu'on avait vu plus proche ici, dans les magasins de disques avant leur fermeture, c'est qu'ils s'étaient mis à vendre beaucoup d'objets de tout ce qui est paraphernalia, tout ce qui est des t-shirts, des toutous,
ouais,
des cossins, des tasses. Mais la musique, le streaming était de plus en plus populaire, puis HMV avait comme pas eu le choix de vendre autre chose que des CD avant, jusqu'à leur fermeture. Puis encore aujourd'hui, quand on va dans les... La seule chaîne de disquaire que je peux penser, c'est Sunrise, qui est encore, qui existe aujourd'hui.
Ouais.
Ben, la moitié du stock, c'est des objets, c'est des posters, des t-shirts, c'est pas nécessairement des disques, mais il y a des vinyles.
Il y a des vinyles, ça attire une nouvelle clientèle, des baby boomers et des jeunes hipsters, et tout le monde...
Des collectionneurs.
Des collectionneurs, puis tout ça. Mais ça, on va revenir là-dessus sur les disquaires, puis tout ça, mais bon point. Et là, je suis parti en Oregon pour te parler de vidéos et de films, parce que, genre, on en parle, hein, de films, on a tout du temps, et le temps coule. Fait que, vite, les fans du sixième étage, et là, la traduction en anglais, c'est un film français avec Fabrice Luchini, The Woman on the Sixth Floor.
Ouais.
Fait que, bravo aux traducteurs anglophones qui traduisent des films français, Made in France. C'est exactement le titre qu'on s'attend.
Ça peut pas être plus simple que ça.
Fait que c'est une comédie française, c'est léger, c'est un petit drame sentimental. Mais moi, Fabrice Luchini, je vous dis en onde.
Luchini,
parlons mes italiens. Non, mais merci, mais moi je le prononce à la québécoise. C'est un film là, de Philippe Leguay et je sors du placard. C'est un de mes acteurs français des plus... Je l'adore. Il joue tout le temps comme le underdog, l'espèce de bonhomme mal dans sa peau. Puis là, il y a comme une rencontre avec une femme où il se passe un incident. Et là, il change du tout au tout. Et tu le vois se transformer. Et moi, je trouve que c'est le talent de cet acteur-là. Fait que si vous avez pas... c'est ça. Si vous n'avez pas grand-chose à faire, puis vous voulez vous divertir, c'est le film...
Les femmes du sixième étage... Un film de Philippe Leguay.
Exactement. Et là, vu que le temps coule, j'enchaîne tout de suite avec le documentaire. Vous vous souvenez, je fais un callback, Le maquilleur de l'horreur, quand l'horreur devient criminelle, le livre de Rémy Couture. Eh bien, j'attendais avec impatience le documentaire fait par Frédéric Maheu qui s'appelle Art, en anglais, / Crime, Inner Depravity, comme l'article 163. Fait que là, ça joue sur entre la fiction et la réalité, le spectacle, la violence, la curiosité et le voyeurisme. Et là, un petit résumé. À ce moment-là, quand ils ont fait le documentaire qui avait passé à Fantasia en 2011, Rémy Couture y attendait son procès. Pendant ce temps, une partie de la scène artistique québécoise s'était mobilisée pour dénoncer ce qu'elle considérait comme de la censure.
Ouais.
Et là, dans les témoignages, dis-je bien, de différents intervenants, dont Robert Morin, gros fan de toi, Robert Morin.
Grand réalisateur québécois.
Québécois que t'adores, on pourra en reparler. Mario Dumont, un politicien showman, Morning Man, whatever. Patrick Sénécal, l'auteur. Et Nacho Cerda, un réalisateur espagnol, se pose les questions du spectacle de la violence, du métier d'artiste et de la censure sur le web sont abordés. Excellent documentaire qui complète bien la lecture du témoignage du livre de Rémy Couture. Fait que si tu me laisses encore des petites secondes...
Oui, vas-y.
Oui. De toute façon, on va terminer probablement avec ça. Fait que c'est ça, il y a des... Robert Morin, comme tu connais le personnage, on l'adore. Il parle de la tolérance, de l'intolérance, de la violence. Puis là, il se pose la question... Et là, j'essaierai pas de l'imiter. Il dit, tu sais, Rambo, dans les films américains, il tue 500 personnes. Et là, t'as Rémy Couture qui tue une personne, qui en maltraite une. C'est quoi? En voulant dire, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème?
Je pense que c'est plus dans la façon de le présenter, quand Rambo tue des gens, il tue pas la personne pendant de longues minutes.
Ouais, c'est pas de la torture, moi, j'avoue.
Les victimes disparaissent rapidement.
Ouais.
Mais on s'entend que ça reste très violent quand même.
Ouais. Mais, tu sais, à vous, pense-y, puis en voyant le documentaire, tu vois, je pose plein de questions, j'ai pas de réponse comme d'habitude. Tu sais, c'est le site Internet sur lequel Rémy Couture, on le répète, c'est C'est un artiste des effets spéciaux. Il prend des photos. Il a filmé un peu les maquillages puis les effets spéciaux qu'il fait, les mannequins puis tout ça. Et là, ça avait été vu par des Européens. Ils avaient vu les images sur le web. Puis, pris hors contexte, on prit ça pour du cash. On prit ça, oh my God, il se passe de quoi? Il y a un meurtre, il y a de l'agressivité à quelque part qui se passe au Canada. Envoyons Interpol, la police de Laval, et tout.
Juste un petit coup de fil à Interpol.
Exactement, ça règle tout. Demain matin, c'est réglé. Problème. Une chance qu'il y a ce monde-là sur Internet, hein, sans eux. Et là, ben c'est ça, l'enquête, là, qu'est-ce qu'on voit dans le documentaire? C'est sûr que ça en a participé. C'est on voit que l'enquête policière a été bâclée. Il y a des affaires qui se sont faites au téléphone. C'est du grand n'importe quoi, comme dirait un certain Éric Lapointe. C'est du n'importe quoi.
Vraiment,
tu regardes ça, puis tu sais, ta mâchoire tombe à terre. Et là, j'entends le vent. On dirait que la cabane va passer.
Le studio est vraiment sous une tornade.
Exactement. Et là, là, je perds le film. En gros, c'est ça.
L'enquête policière était un peu bâclée.
Elle était un peu bâclée. Et là, on a un policier, on a un sergent qui essaie de nous expliquer sans rien dire parce que c'est une enquête policière puis il veut pas se dévoiler. Mais il parle en général de façon très paternaliste, je m'excuse. Et là, il essaie de nous expliquer, de nous enfirouaper ce cas-là précisément, puis qu'ils n'ont pas le choix d'enquêter, puis blablabla. Je sais pas si le policier il a réalisé à quel point qu'est-ce qu'il disait, ça pouvait être autant crédible pour des gens et pour d'autres mondes, ça fait l'effet contraire. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus, c'est que OK, le film, c'est l'atteinte à la liberté d'expression. Fait que la police, les procureurs, la couronne, c'est Goliath.
Ouais.
Goliath, c'est un État, il y a des ressources financières illimitées, versus David, qui est Rémi Couture, qui a des moins de ressources, qu'il faut qu'il paye ses avocats, puis il faut qu'il se défende tout seul. Fait que, encore là, regardez ce film-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les courts-métrages ou les images qui ont été jugées offensantes pour le grand bien des Canadiens sont à l'intérieur du film. Fait que les suppléments, on voit des photos, les making-of, des courts-métrages, super intéressant. Juste pour ça, ça vaut la peine.
Toi, tu l'as vu?
Je l'ai vu. C'est très gory,
ouais.
Mais il y en a un aussi qui est pour la défense de Rémi Couture. Fait qu'ils ont fait un vidéo des amis puis tout ça. Et juste ça vaut le prix d'entrée de ce film-là.
Bon.
De ce documentaire.
Combien ça coûte le prix d'entrée?
Je sais pas. Je fais une présentation privée pour pas cher du pop-up.
Alors, c'est quoi le nom du documentaire, Marc-André?
Art/Crime. Un documentaire de Frédéric Maheu que je vous conseille si vous avez suivi le débat sur la liberté d'expression, sur qu'est-ce que les Canadiens et les Canadiennes peuvent ou ne peuvent pas voir.
Avec le grand maquilleur d'effets spéciaux, Rémi Couture.
Exactement.
Hey, super intéressant, Marc-André.
Et là, je vois que j'ai essayé de courir, j'ai couru, et là, j'arrive au bout de mes anecdotes. Non, c'est pas vrai. On va faire qu'habituellement, on termine tout le temps par une chanson. On va jouer la chanson et on va peut-être avoir du temps pour
jaser de tout et de rien.
Ouais,
hey, parle-moi de ça, toi.
Ouais, on est en avance sur notre temps.
Mais là, c'est génial.
Mais là,
on y va-tu en musique ou... Donc, désolé, à la maison, on révise nos notes. Mais dans un instant, on va mettre un peu de musique. Question de mettre un peu d'ambiance. En ces temps festifs. Car oui, c'est le temps des fêtes. Sur les ondes de CKUT. 90,3.
FM. Et là, on va... Shadow don't make no sound. They had a time to close my mind, tied up against the jail.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Marc-André, c'est une pièce de qui, ça? Ça brassait au palais. Wow.
Oui, ça, c'était pour vous réveiller. J'espère que les céréales n'ont pas volé et les œufs.
Moi, j'ai juste échappé mon café sur mes jambes.
Ouais.
Ça m'a brûlé la cuisse.
Ça t'a brûlé, oui.
Ouais.
Je vais te frotter avec de l'antijou. La biafine. Hey, c'est des Helicopters Grand Rock, l'album, et c'était la pièce The Electric Index Eel. Tu peux pas avoir plus électrique que les Helicopters. Helicopters, vu qu'on a du temps, vu que j'ai tellement...
Un gros 3 minutes, toi.
J'ai performé comme ça se peut pas. Helicopters, groupe suédois de Stockholm.
C'est vrai, ça?
Oui.
Wow, ça sonne vraiment pas comme un groupe suédois.
Ça sonne américain.
Ouais.
C'était formé en 1994. Leurs années de force, c'est 94 à 2008. Et de façon sporadique, des fois, depuis 2016, ils ont recommencé à faire des shows, des prestations, mais pas d'enregistrement de nouveau matériel. Ce groupe-là, on le considère comme du high energy rock and roll.
Très énergisant.
Exactement.
On prend ça avant d'aller courir.
Oui.
Ou quand on veut se donner un petit kick, un petit pep le matin quand on se sent pas bien, puis on veut juste starter le moteur.
C'est ça qu'on voulait faire ce matin en mettant
avec un peu de musique énergique.
Exactement, puis du rock and roll. Ces gars-là ont 7 albums studio,
okay.
Et des EP, on les compte pas. Fait que tu peux pas collectionner leur EP, les petits vinyles qu'ils font. Il y en a tellement. Il y a des pochettes de différents artistes visuels du Custom Culture. Et ils coûtent des fois des prix de fou. Un look très custom, Big Daddy Rot, les monstres, les filles à bikini à gogo. Tu sais, tout le côté kitsch 70, un peu psychédélique, un peu Bad Boys et tout ça.
Biker un peu,
oui, exactement. Et tu sais, il y a des gars dans des groupes, là, c'est comme un all-star band. Il y a des gars de Entomb qui, à la place de jouer, admettons, de la guitare dans son band, ben il joue du drum avec Helicopter. Fait que là, le temps coule. Et savais-tu que, OK, le principal le parolier et tout ça s'appelle Anderson au chant à la guitare électrique. Mais il y a un gars, il y a du piano des fois dans ce groupe-là.
Oui.
Et c'est un bonhomme qui porte un casque. Il s'appelle Boba Fett.
D'accord.
Boba Fett joue du piano. C'est une exclusivité. Dans Helicopter.
Moi, tu me prends au dépourvu.
Oui, mais c'est pas une blague. C'est vrai. Il a mis son... Quand il voulait pas se faire reconnaître, là, parce qu'il joue dans d'autres groupes. Lui, quand il joue du piano avec les Helicopters...
Mais je connais pas ce musicien-là.
OK. Mais Boba Fett!
Je connais pas.
C'est un chasseur de primes. Star Wars.
Ah, Boba Fett
ouais.
De Star Wars.
Exactement.
Oh,
oui.
Excusez, pardon.
The Mandalorian.
Pas là, j'étais dans le champ. Ouais. Je dormais.
Tu dormais?
Oh, ouais, j'étais en train de faire.
Attends, j'ai donné 2 clans.
Merci. Oh, merci, ça me réveille. OK, Boba Fett, merci, bonsoir. OK, on continue.
Bonsoir,
Ben, il reste plus de temps.
Bon, ben.
C'est déjà la fin de l'émission, Marc-André. On finit là-dessus.
On finit sur Boba Fett.
Désolé. Merci de nous avoir écoutés, tout le monde.
Ouais.
C'était le lendemain de la veille sur CKUT 90,3 FM.
À la semaine prochaine, si bye. Dieu le veut.
Bye bye bye.
Bye bye.
Vous avez 65 ans ou plus? C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Age 65 and over? Now's the time to make your appointment for your booster dose against COVID-19. Visit quebec.ca/COVID-vaccine to book your appointment online. To continue protecting yourself against COVID-19 and its variants, get a booster dose and keep following distancing measures, wearing a mask, and washing your hands. The booster dose, the best way to stay protected longer. A message from the gouvernement du Québec.
Ring, 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 CKUT. Yeah. Ding dong, ding dong, ding dong, ding, CKUT. 90.3, take it from me. It's the best, beats the rest, 90.3 CKUT.
Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si votre enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes. Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient une plus petite quantité d'ARN messager, car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace que chez les adultes.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca/vaccinjeune. Un message du gouvernement du Québec.
The following is a previously broadcast program.